Voilà, je vais donc essayer ce soir de vous dire un mot sur la réalité du combat spirituel. C'est un thème central de la foi, ce n'est pas quelque chose d'un petit peu périphérique. Et ça tombe très bien que nous parlions de ça en ce jour qui est exactement le 40e jour après Pâques. C'est-à-dire que normalement l'ascension c'est aujourd'hui. Et dans plusieurs pays, c'est aujourd'hui. Dans les Actes des Apôtres, nous lisons que pendant 40 jours, Jésus leur est apparu aux apôtres et les a entretenus du royaume. 40 jours où Jésus a passé de longs moments avec eux, mangeant avec eux, les enseignant, 40 jours au quotidien avec ses apôtres. Et selon Luc, selon les Actes, les dernières paroles de Jésus, donc celles qu'il prononce aujourd'hui, le 40e jour, sont celles-ci. « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui va descendre sur vous et vous serez mes témoins. » Et après, Saint-Luc, qui nous raconte l'ascension, nous dit à ces mots, « Sous leur regard, Jésus s'éleva et une nuée le déroba à leurs yeux. » Et on nous dit que les apôtres gardaient les yeux fixés vers le ciel. C'est-à-dire, et nous pouvons très bien contempler ce moment, donc Jésus a rassemblé ses apôtres, nous sommes sur le sommet du Mont des Oliviers, Jésus les a enseignés et ils sont témoins de ce moment où Jésus monte. Jésus est comme happé, attiré vers le ciel. Et eux, ils sont là scotchés, à regarder. Et s'ils regardent, c'est qu'il y a là quelque chose d'extrêmement émouvant et sans doute une immense beauté. Vous pensez que si la transfiguration, c'était bouleversant de voir la beauté du Christ qui apparaissait sur le mont Tabor, à plus forte raison aujourd'hui, dans l'ascension, la contemplation du Christ qui monte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si beau, si lumineux, et on l'imagine, on le contemple avec ses blessures qui rayonnent de lumière, le Christ qui monte dans la gloire divine. Et désormais, à partir de ce jour-là, eh bien, il n'y aura plus cette présence quotidienne physiquement visible de Jésus, où Jésus passe plusieurs heures à manger avec eux, à les entretenir, comme je te vois. C'est terminé ce moment-là. Nous sommes entrés, merci beaucoup Michel. Voilà, formidable. Nous sommes entrés dans un autre moment, une autre page de l'histoire. C'est terminé ce moment où on passait des heures à manger avec Jésus en se voyant comme ça. De fait, Jésus va apparaître de manière visible à plusieurs témoins. D'abord à Paul, et puis pensez dans l'histoire bien plus tard à Marguerite Marie. Pensez au rabbin Zoli, au rabbin de Rome, par exemple, qui a eu une apparition du Christ. Et peut-être certains d'entre nous ont eu la chance un jour de voir Jésus dans la prière, par une sorte de vision intellectuelle ou dans votre cœur. Mais ce temps des grandes apparitions, si on peut dire, est terminé. Et nous entrons vraiment dans une autre page de l'histoire. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit ceci, l'ascension du Christ au ciel signifie sa participation dans son humanité à la puissance et à l'autorité de Dieu lui-même. Il y a un homme qui désormais bénéficie de toute l'autorité et la puissance divine, parce qu'il est vraiment Dieu et vraiment homme, et désormais il est pris dans la gloire du ciel. Il possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est une nouvelle page, et Jésus nous dit, il ne nous appartient pas de connaître littéralement donc les temps et les moments, c'est-à-dire la durée et les événements de cette nouvelle page de l'histoire qui a commencé au 40e jour après Pâques, c'est-à-dire aujourd'hui. Quelque chose de complètement nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau à partir de ce jour-là? Désormais, le démon a perdu son règne qui avait commencé quand Ève a écouté le serpent. Désormais, le péché a perdu sa puissance, sa toute-puissance sur nous. et la mort a perdu son royaume sur nous, son règne sur nous. Parce que Jésus, qui a choisi de descendre jusqu'au fond de l'abîme pour nous, s'est relevé vainqueur du démon, du péché et de la mort. Donc le cours de l'histoire continue, mais il y a quelque chose de complètement nouveau, radicalement nouveau, cette victoire du Christ. Jésus est le Tout-Puissant, mais, et c'est là où on commence à entrer dans, je dirais, dans le vif du sujet, Jésus est le Tout-Puissant, mais sur la terre, son règne ne se déploie que par étapes. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a déjà la toute-puissance sur la vie, sur la mort, sur le péché, mais ce règne ici-bas, hein, moi je suis sur le plancher des vaches, hein, ce règne ne va se déployer que par étapes. Je m'explique. Dans le ciel, le règne du Christ est accompli. Et Satan a été chassé du ciel. Vous vous souvenez du jour où Jésus est touché de voir les apôtres qui lui racontent tous les signes qu'ils ont faits. Ils ont libéré des possédés, ils ont guéri des malades. Et Jésus, dans son éclat de joie, dit « Et je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Luc, chapitre 10. Et Jésus voyait déjà par anticipation ce que serait le fruit de son mystère pascal. Cette chute, Satan n'habite plus le ciel. C'est terminé. Ça, c'est au ciel. Sur terre, le règne du Christ est présent, mais comme un germe, comme un commencement. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Élevé au ciel et glorifié, ayant ainsi accompli pleinement sa mission, il demeure sur la terre dans son Église. Le règne du Christ est déjà mystérieusement présent dans l'Église, germe et commencement de ce royaume sur la terre. Vous voyez ça ? La toute-puissance Jésus là, mais son royaume ici-bas n'est encore qu'en germe, qu'en commencement. Le royaume est présent dans l'Église, dans la puissance de l'Esprit-Saint qui agit à travers les croyants, dans les sacrements, et tout spécialement dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, le règne de Dieu est déjà là. Il est déjà présent. Sur la terre, le règne de Jésus ne sera un règne total et définitif que lorsqu'il reviendra dans la gloire. Nous sommes un peu dans cet entre-deux, dans le déjà là. Déjà, il y a des signes du royaume, et vous en êtes. Et en même temps, le royaume n'est pas encore dans sa plénitude sur la terre. Il sera en plénitude sur la terre un jour, dont je ne connais pas la date, et vous non plus, de la venue en gloire du Christ. Ce qui veut dire qu'il faut bien distinguer la toute-puissance de Jésus qui est déjà acquise. Jésus est tout-puissant sur la vie, sur la mort, sur toutes les créatures. Mais le déploiement de cette toute-puissance ici-bas n'est pas encore pleinement accompli. Je lis au numéro 671 du catéchisme de l'Église catholique. Déjà présent dans l'Église, le règne du Christ n'est cependant pas encore achevé avec puissance et grande gloire. Pas encore. Il le sera par l'avènement du roi sur la terre. Ce règne est encore attaqué par les puissances mauvaises. Même si ces puissances mauvaises ont été déjà vaincues à la base par la Pâque du Christ. Vous voyez ? Il faut distinguer la toute-puissance de Jésus déjà acquise et son règne qui n'est pas encore dans son accomplissement total. Et ce qui nous aide à bien méditer ce mystère, c'est le chapitre 12 de l'Apocalypse. Alors, si vous avez apporté votre Bible, vous pouvez ouvrir Apocalypse, chapitre 12, parce que je vais pas mal y revenir. Je vais vous lire au chapitre, à la fin du chapitre 11 et le début du chapitre 12 de l'Apocalypse. Vous savez que c'est le dernier livre de la Bible. C'est grande révélation que a eu Saint Jean, l'apôtre Saint Jean, un dimanche, hein, alors qu'il était en prière. Voilà ce qui se passe, ce qu'il voit. Hein. Donc Jean est sur l'île de Patmos, en prière, un dimanche, et cette grande vision qu'il voit. Et le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit. Et l'arche de l'Alliance apparut dans son temple. Grande vision de l'arche. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, une forte grêle. Un grand signe apparut dans le ciel. Imaginez, contemplez. Une femme, vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Cette femme est enceinte et crie dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Premier signe. À côté. Alors un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge feu, 7 têtes, 10 cornes. Sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue, qui balayait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle. C'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est vraiment le berger suprême de toutes les nations, cet enfant. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Ça, c'est aujourd'hui, c'est l'ascension. Alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Donc, l'enfant est monté dans la gloire, le fils de la femme. La femme, elle, s'enfuit dans le désert, la pauvreté. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel et ses anges, Michel c'est le prince des anges, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges. Mais il n'eut pas le dessus, il ne trouva plus de place pour eux, il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. C'est-à-dire, Satan et ses anges n'ont plus de place dans le ciel. C'est terminé. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Donc c'en est fini de son règne dans le ciel. Bien. Qu'est-ce que nous voyons dans ce texte ? D'abord, le fils de la femme enveloppée du soleil, ce fils qui est le pasteur de toutes les nations, est donc enlevé auprès de Dieu. Et c'est donc à ce moment-là que par le ministère de Michel, de Saint-Michel Archange, le démon est chassé du ciel. Avant ce moment-là, le démon avait déjà envoyé des anges, le tiers des étoiles du ciel, une manière de dire une partie des anges, les anges déchus, est déjà envoyé sur la terre. Mais à partir de ce moment-là, le démon, Satan, avec ses anges, est rejeté définitivement du ciel. Ce texte nous parle de cet être, d'abord comme un dragon. C'est l'image de la puissance, l'image du monstre, de la violence meurtrière. Ensuite, comme l'antique serpent, c'est-à-dire le tentateur, qui insinue le doute en nous pour nous arracher à l'amitié de Dieu. Ensuite, il l'appelle Satan, ce qui veut dire adversaire ou bien accusateur, en hébreu. Il accuse l'homme jour et nuit. C'est-à-dire, il fourvoie l'homme, il pousse l'homme dans la faute, il l'accuse. Et enfin, il l'appelle séducteur du monde entier. Il séduit. Je lis la suite du texte. Et j'entendis une voix forte qui dans le ciel disait « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, les chrétiens, ils l'ont vaincu, ici-bas, par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont donné leur vie. Si je regarde un petit peu tout ça, qu'est-ce que je comprends ? Le temps que nous vivons, depuis 2000 ans, et spécialement aujourd'hui, est un temps qui est d'abord marqué par la victoire que la foi nous fait voir et goûter. Nous sommes d'abord dans le temps de la victoire de Christ. On ne peut pas parler du combat spirituel sans d'abord proclamer cette victoire du Christ. Jésus-Christ est le Seigneur. Kurios, hein, kurios en grec, ça veut dire l'être divin, c'est la divinité. Il est Dieu, il est Seigneur. Et l'Évangile, la bonne nouvelle, est proclamée. Et c'est une miséricorde extraordinaire qui nous a été faite. Et c'est fait. Christ est Seigneur. C'est d'abord cela, notre temps. Mais c'est aussi un temps de combat. Pourquoi ? Parce que Satan, avec ses anges, cherche à retirer des âmes à Dieu, à les embarquer dans sa perdition à cause de sa jalousie. Dans la première lettre de Pierre, Pierre dit ceci, « Le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » Et comprenez bien, Satan n'est pas un être victorieux qui veut nous vaincre. Non, c'est un perdant, un perdu qui veut nous entraîner dans sa perte. C'est tout autre. Ça change complètement le sens du combat spirituel. C'est un perdant qui a perdu et veut nous entraîner dans sa perte, nous dévorer, comme dit l'apôtre Pierre. Il y a donc un véritable combat spirituel, personnel, ecclésial et même cosmique. Et ce combat, l'apôtre Paul en parle très bien. C'est moi qui dis, ben, c'est sûr qu'il en parle très bien. Il en parle dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, où il dit ceci. Revêtez l'armure de Dieu, c'est-à-dire la panoplie avec toutes les armes, pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, aux pouvoirs, aux dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Qu'est-ce que je comprends de ça ? Il faut être conscient, d'abord, que ce combat n'est pas de la même nature qu'un combat humain. Quelquefois, il faut se battre pour arriver à quelque chose dans votre profession, dans votre travail, et puis même dans la vie de la société, il y a des combats pour la justice, il y a des combats aussi militaires, etc. Là, il ne s'agit pas d'un combat de la même nature. Les moyens humains ne marchent pas. Et même, si nous prenons des moyens humains pour le combat spirituel, ils risquent de nous faire du mal. Parce que dans le fond, on va se faire piéger par l'adversaire. Donc ne prenons pas des combats, des moyens humains pour un combat qui n'est pas humain. Nous luttons contre des autorités, des pouvoirs, des dominateurs, des esprits du mal. Deuxièmement, Paul nous dit qu'il faut endosser la panoplie de Dieu. On pourrait dire le kit de combat. Le kit de combat de Dieu. Et cette expression est extraordinaire parce que Paul va la chercher dans le livre d'Isaïe, où en fait c'est Dieu qui porte une armure dans Isaïe. Dans le livre d'Isaïe, il s'agit de la panoplie que Dieu revêt pour combattre l'injustice des hommes. Dieu prend comme arme la force de son bras, la justice, le salut, la vengeance divine et la jalousie divine. Ça, c'est les armes de Dieu face à l'injustice des hommes. Eh bien, Paul nous dit, toi aussi, fais de même. Prends les armes de Dieu. Demande-lui ses armes à lui. Parce que les tiennes, comme humains, les miennes, ça ne marche pas. Ce sont, nous dit Paul, des armes défensives, essentiellement défensives. Quelles sont les armes du combat spirituel ? La vérité de Dieu, la vérité de l'amour miséricordieux. Ça, c'est la première arme. Je proclame la vérité du Christ Seigneur, je proclame la miséricorde. De la justice de Dieu. La justice au sens de la vérité, de ne rien cacher, de ne rien falsifier, de ne rien relativiser. Ce qui est, est. Soyons justes. Et aussi au sens de la justice que Dieu nous donne. La justification que nous donne Jésus par son sang. Donc la justice de Dieu. Troisième arme, le zèle pour annoncer l'évangile. Vous avez déjà pensé à ça ? Que le combat spirituel, une des armes essentielles, c'est le zèle que tu as pour annoncer l'évangile. Ensuite, la foi en Jésus Seigneur, qui est présent là maintenant, avec nous et pour nous, comme il le sera dans le métro tout à l'heure, ou à la maison ce soir, ou demain au travail. Et le salut. Dernière arme, le salut. La certitude que le salut nous est offert dans le Christ. Ça, c'est toutes les armes défensives pour me défendre contre ces attaques de l'ennemi. Et une seule arme offensive, laquelle ? La parole de Dieu. La seule arme offensive, le glaive, c'est la parole de Dieu. Le combat spirituel n'est donc pas un combat, si vous regardez bien ces armes, où nous, pauvres créatures, nous partons en guerre contre des créatures spirituelles maléfiques. Ça n'a pas d'allure, ça ne marche pas. C'est pas ça. Non, combattre, le combat spirituel, c'est vivre à plein l'évangile. Et c'est ça qui fait décamper les démons. Vous voyez ? Combattre, c'est accueillir la Seigneurie de Jésus dans ma vie, en vivre, en servir et l'annoncer. Et ça, ça fait partir les démons. Vous allez me dire, quand il part, il va chercher cet esprit plus mauvais et il revient. Ce qui veut dire que nous devons continuellement vivre l'Évangile, continuellement rechoisir la Seigneurie du Christ, continuellement nous laisser envelopper par la Seigneurie du Christ. Continuellement. Ce n'est pas une seule fois qu'on mène ce combat. Hein, combien de fois on doit recombattre et recombattre, hein ? Nous le savons tous. Ce que je vous dis là, le livre de l'Apocalypse le dit à sa manière. Nos frères, hein, on l'a lu, ont vaincu le dragon. Comment ? Par le sang de l'agneau. Donc en puisant dans la victoire du Christ et par la parole dont ils ont témoigné, par l'annonce de l'Évangile. Si tu accueilles le sang du Christ, si tu proclames l'Évangile, le démon s'en va. La victoire du Christ vient et s'accomplit là où tu es, là où tu as vraiment compté sur le Christ. La victoire vient par le sang du Christ et par l'annonce de sa victoire. Et regardez bien, ce n'est pas une victoire humaine qui va nous rendre riches ou tranquilles. Cette victoire-là, ça peut être de mourir martyr. C'est-à-dire de mourir d'amour. Si tu meurs martyr, c'est une grande victoire. D'abord parce que le démon a échoué dans sa tentative de te dévorer, et deux, parce que ton témoignage va arracher des armes à Satan. Si tu meurs martyr, c'est une grande victoire. Je lis la suite de l'Apocalypse, donc au chapitre 12, toujours. À partir du verset 12. C'est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui avez votre demeure. Parce que Satan est tombé. Malheur à vous, malheureux sommes-nous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme. Déjà, je voudrais commenter ce verset 12. Frémissant de colère parce que ses jours sont comptés. Ça nous dit le sérieux et la vigueur du combat spirituel. Si nous ne puisons pas dans la victoire de Jésus, nous perdons du terrain. L'Église ne peut pas être passive. Être passif, c'est se laisser dévorer. Et lorsque nous disons dans la vie spirituelle, il faut s'abandonner, il faut se laisser aimer, il faut se laisser tendresser, nous avons raison. Mais ça veut dire, en fait, tout ça, nous abandonner à la victoire du Christ. Ce n'est pas juste s'abandonner tranquille, comme sur la plage. C'est je m'abandonne à la victoire du Christ. Je fais confiance à Jésus. C'est ça qui est nécessaire. Ce n'est pas de la passivité. Il nous faut tous nous engager volontairement dans cette ouverture à la victoire du Christ. Ensuite, quand le dragon se vit précipité sur la terre, qu'est-ce qu'il fait ? Il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Le premier objectif du démon, c'est la femme qui a enfanté le Christ. La femme enveloppée de soleil, c'est Marie, et en elle, l'Église. Si c'est son premier ennemi, cela veut dire que Marie est celle, la première, à faire ici-bas obstacle aux manœuvres du démon. Sinon, il commencerait pas par elle. S'il commence par s'acharner contre Marie, c'est parce que Marie est le premier obstacle. C'est ça que le livre de la Genèse, déjà, vous savez, une sorte de premier évangile. Dès le chapitre 2 de la Genèse, je mettrai une hostilité, dit Dieu au serpent, entre toi, le serpent, et la femme, entre la descendance du serpent et la descendance de la femme, elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Elle t'écrasera la tête. Cela veut dire que Dieu a confié à Marie un rôle unique dans ce grand combat spirituel. Elle est la femme par qui la victoire du Christ nous vient. Elle est la médiatrice de la grâce. Marie est associée à la victoire parce qu'elle est associée à la passion. On pourrait dire que Marie est la première martyre, la première à s'unir à la passion de Jésus. Et parce que son cœur est immaculé, la manière dont elle s'associe à la passion de Jésus est absolument parfaite, pure, immaculée. Elle est la co-rédemptrice, elle est à côté du Rédempteur, de l'unique Rédempteur qui est son Rédempteur. Et nous sommes avec elle, sous son manteau, des petits co-rédempteurs. Et parce que Marie est ainsi unie à la souffrance et à la victoire de Jésus, elle est la toute miséricordieuse. Personne n'a accueilli comme elle la miséricorde divine offerte à toute l'humanité. Et de ce fait, elle est notre avocate. Elle nous donne son cœur immaculé à nous autres dont le cœur est bien souillé. Moi, la prière que j'aime faire à Marie, c'est « Marie, je te donne mon cœur. Ce que Dieu désire en moi, fais-le. » Je confie mon cœur à Marie et je lui dis « Ce que Dieu désire, fais-le. Vas-y. » Je lis la suite du texte. « Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, au lieu qui lui est réservé pour y être nourrie loin du serpent, un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Donc la femme vit au désert et c'est ça qui la rend invincible. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'ennemi ne peut rien contre Marie. Parce que Marie demeure au désert, le lieu de la pauvreté, le lieu de l'humilité, de la croix, du dépouillement, c'est-à-dire du plus grand amour. Et à cause de cela, elle est invincible. Alors, qu'est-ce que fait le serpent ? Le serpent vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme pour la faire emporter par les flots. C'est-à-dire, le démon cherche à noyer Marie. Comment ? À noyer Marie dans un fleuve de discours et de mensonges. Il y a deux sortes de mensonges concernant Marie et son rôle. Il y a le mensonge qui nie le rôle de Marie, et il y a le mensonge qui déforme le rôle de Marie, soit en la présentant comme une divinité, ce qui n'est pas vrai, soit en la présentant comme quasiment plus puissante que Jésus ou plus miséricordieuse que Jésus. Et le pape François à Fatima la semaine dernière a critiqué cela, puis avec pas mal de cynisme. Parce que on ne peut pas imaginer Marie plus miséricordieuse que Jésus, ça n'a pas de bon sens. Elle est celle qui nous apporte la grâce de Jésus. Elle est toute entière pour Jésus. Elle est celle qui nous conduit à Jésus. Donc deux mensonges. Le démon, il vomit ces deux sortes de mensonges. Ou Marie, sympa d'allure, et puis croyez-y pas, ou bien ces mensonges qui exagèrent en fait le rôle de Marie. Je lis la suite. Mais la terre vint au secours de la femme. C'est très étonnant, la terre, pas le ciel. La terre vint au secours de la femme, la terre s'ouvrit et engloutit le fleuve vomi par le dragon. Le fleuve des mensonges est arrêté par la terre et non par le ciel. Ce que je comprends, c'est comme si c'était les petits, les humbles, vous, qui font obstacle à ce mensonge de Marie. Parce que vous aimez Marie, parce que vous avez confiance en elle, c'est vous qui évitez que ce mensonge, ces fleuves de mensonges se propagent. Dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat, parce que ça ne marche pas avec Marie, contre le reste, ça c'est un terme biblique, hein, c'est le petit bout du peuple qui reste, hein, le reste de sa descendance, donc de la descendance de la femme, ils ne sont pas bien nombreux, mais c'est le petit peuple là. Ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Donc le démon s'acharne contre qui ? Quand la Vierge est indévorable, disons. Contre le reste, contre la petite partie du peuple, les enfants de la femme, la descendance, les enfants de Marie. Et pourquoi est-ce que le démon s'acharne contre les enfants de Marie qui sont si peu nombreux, parce que ce sont eux qui, enfantés par Marie, portent et annoncent la victoire du Christ. Et c'est vous, et moi avec vous, le reste, la descendance de la femme. Voilà, c'est ça que l'Apocalypse nous fait un petit peu comprendre quand on médite le chapitre 12. Le combat spirituel a un enjeu énorme. Et cet enjeu considérable, qu'est-ce que c'est ? C'est les armes. Le vrai enjeu du combat spirituel, c'est pas notre tranquillité dans la prière. Je voudrais une prière zen. Je ne dis pas ça au nom du zen, mais j'utilise l'expression commune. Le vrai enjeu du combat spirituel, c'est pas la tranquillité dans la prière. C'est de répandre la victoire du Christ. C'est de nous engager pour que des âmes soient sauvées. Vous savez, c'est redoutable de réaliser que toi et moi, nous avons une responsabilité vis-à-vis du salut d'âmes d'autres personnes. C'est pas une chose banale. Et nous avons donc un combat à mener. Nous voyons l'adversaire qui se bat contre nous. Nous avons compris que notre part à nous, c'est d'accueillir la victoire du Christ et de l'annoncer. Et là, il y a un combat. Il y a un combat. Alors, je vais essayer de comprendre avec vous comment mener ce combat. Alors là, je suis allé, c'est même venu dans la prière l'autre jour, vers le livre des juges, au chapitre 6. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le livre des juges ? Vous savez que là, on se situe, vous vous souvenez que le peuple sort de l'Égypte avec Moïse, c'est l'Exode, traverse le Jourdain, ils arrivent dans la terre promise, dans la terre sainte, et là, vont se succéder des gouvernements successifs, les uns après les autres, qu'on appelle des juges. Les juges, ce n'est pas uniquement au sens de rendre la justice, à l'époque c'était aussi le souverain. Et parmi ces différents juges, il y a un certain Gédéon. Et ce monsieur-là, il est donc au service du peuple d'Israël dans un moment très précis, au moment où Israël est très menacé. Pourquoi ? Parce qu'il y a les Madianites qui sont en train de vouloir prendre Israël. Madianites, c'est un peuple nomade qui vient du désert, plus au sud, là. Un peuple très guerrier, très puissant. Et en plus, à ce moment-là, ils se sont alliés avec les Amalécites, un autre ennemi d'Israël. Et tout ce monde-là se trouve dans la plaine d'Israël, qui est la plaine qui est au pied du mont Tabor. Donc on est en plein dans la Terre Sainte, et l'ennemi est là. Comment on va faire ? C'est la panique en Israël. Un ennemi qui a déjà décimé toutes les récoltes pour nous affamer. Et cet ennemi est là au milieu de nous. Qu'est-ce qu'on fait ? Ou plutôt, qu'est-ce que Dieu va faire pour nous sauver du péril des Madianites, de ce peuple très agressif, très puissant ? Alors, qui va combattre et comment ? Que fait Dieu ? Dieu va aller trouver un petit, Gédéon. Écoutez comment Gédéon répond quand Dieu vient le trouver. Le Seigneur se tourna vers Gédéon et lui dit, « Va avec cette force que tu as et sauve Israël de Madian. Oui, c'est moi qui t'envoie. » Qu'est-ce qu'il répond ? « Pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël ? Mon clan est le plus faible en Manassé, dans la tribu. Et moi, je suis le plus jeune dans la maison de mon père. Tu t'es trompé. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Je suis tellement petit. » La première technique du combat, c'est d'accepter d'être choisi aussi petit que nous sommes. Tous nous sentons faibles d'une manière ou d'une autre. Tous nous avons une écharpe dans la chair. Tous nous avons des fragilités, des maladies, des misères. Et pourtant, c'est bien nous que le Seigneur a choisi. Le combat spirituel demande de me laisser choisir aussi petit que je puisse être et de laisser Dieu choisir aussi ma communauté, aussi fragile qu'elle puisse être. Ne pas résister au choix de Dieu sous prétexte de notre faiblesse. Parce que le combat spirituel ne se fonde pas sur nos forces humaines, mais sur la mise à disposition auprès de Dieu de mes forces et de mes faiblesses. Bien. Ensuite, qu'est-ce que nous apprend Gédéon ? Gédéon va demander un signe, même trois fois. Par trois fois, il va demander un signe. Et Dieu ne refuse pas. Au contraire, trois fois, Dieu va lui donner un signe. Qu'est-ce que je retiens ? Je retiens que Dieu ne refuse pas le dialogue avec toi. Dieu aime dialoguer avec nous. N'ayez pas peur de dialoguer avec Dieu. Et Dieu va accepter les demandes de signes de Gédéon, parce que la demande de Gédéon, ce n'est pas « Donne-moi un signe pour que je croie que tu es puissant ». Ça, c'est un peu l'affaire de Zacharie. Ça n'a pas été idéal. C'est « Donne-moi un signe pour que je sois sûr que ce soit toi qui m'aies bien parlé, qu'il ne soit pas une illusion ou un mauvais esprit. » Et vous voyez ce dialogue ? Dialoguons avec Dieu. Dieu nous aide. Il aide comme quand ses enfants, avec humilité, dialoguent avec lui. Troisième leçon. Je le lis au chapitre 7, verset 3 du livre des Juges. Toujours. Le Seigneur dit à Gédéon, trop nombreux est le peuple qui est avec toi. Trop de monde avec toi. Israël pourrait se glorifier à mes dépens et dire c'est ma main qui m'a sauvé. En conséquence, Dieu demande à Gédéon ceci. Proclame au peuple, quiconque a peur et tremble, qu'il s'en retourne et s'en aille. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, il en resta 10 000. Qu'est-ce que je retiens ? Pour vivre le combat spirituel, il faut nous affranchir de la peur. La peur ne vient jamais, jamais de l'Esprit Saint. Nommons nos peurs. Nous avons tous des peurs. Nommons nos peurs. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? À quoi je suis attaché que j'ai peur de perdre? Nos peurs révèlent les liens qui tiennent nos cœurs captifs. Nommez nos peurs et les remettre pour être vraiment disponible au Seigneur. C'est la troisième technique, si on peut dire, du combat spirituel. Après, Dieu va encore réduire l'armée. Le Seigneur dit à Gédéon, ce peuple est encore trop nombreux. Ah bon ? On est déjà passé de 32 000 à 10 000, ça ne suffit pas. Fais-le descendre au bord de l'eau, et là, je le mettrai à l'épreuve pour toi. Et donc, le Seigneur va demander à Gédéon, amène le peuple au bord de l'eau, les gens vont boire, et selon la manière dont ils vont boire, eh bien, on va dire, celui-là, il est bon, celui-là, il n'est pas bon pour l'armée. Et en fait, Dieu va réduire le peuple à 300 hommes. De 32 000 à 300. Qu'est-ce que je retiens de cela? Ne pas nous étonner que Dieu nous diminue. Dieu nous prépare au combat, non pas en nous couvrant de richesses, mais en nous diminuant par des purifications. Pourquoi? Pour pouvoir faire des merveilles à travers nous, il faut que nous soyons petits. Et en plus, si nous ne sommes pas petits et que nous pensons que c'est nous qui allons gagner la victoire, on risque de tomber dans un grand orgueil. Donc le Seigneur, dans sa bonté, commence par nous purifier, par nous diminuer. Donc ne soyez pas étonnés si le Seigneur vous purifie, nous autres chrétiens d'aujourd'hui. C'est la quatrième technique du combat. La cinquième, quatrième, ne pas nous étonner que Dieu nous diminue. Ensuite, la cinquième étape est très intéressante, c'est que Dieu va donner à Gédéon la manière dont il va combattre. Et c'est très original. Je pense que vous n'auriez jamais pensé. Donc il y a tout le camp qui est là dans la plaine d'Israël, et Dieu dit, je traduis dans mes mots, « Attends la nuit, et c'est dans la nuit que tu vas agir. » Et voilà comment tu vas agir, avec tes hommes que tu vas répartir en plusieurs endroits, vous allez faire du bruit, avec des cordes et avec des cloches, c'est-à-dire des jarres, avec un morceau de bois fait ding ding ding. Et vous allez faire tellement de bruit en même temps, que eux ils vont croire que vous êtes très nombreux et très puissants, et moi le Seigneur, je vais les mettre en déroute. La beauté de Gédéon, c'est que cette idée complètement saugrenue, il l'accepte. C'est-à-dire, Gédéon fait plus confiance en la parole de Dieu que dans ses stratégies qu'il aurait lui élaborées. Donc l'étape, la clé suivante, disons, du combat spirituel, c'est une confiance absolue dans la parole de Dieu. Ne mettons pas en doute la parole de Dieu, c'est nous-mêmes à qui nous faisons du mal. Je fais confiance, Seigneur, au chemin par lequel tu veux me faire passer, même si je ne le comprends pas. Comme Gédéon, qui accepte cette forme de combat tout à fait étonnante et qui ne devait pas marcher. Et c'est comme ça que les Madianites et les Amalécites vont être terrorisés, vont partir en courant et ils vont être décimés. Leçon suivante de cette technique toujours du combat spirituel, c'est de nuit. C'est de nuit. Le combat spirituel, il se fait nécessairement de nuit. Ne nous inquiétons pas de ne pas voir, de ne pas sentir. Dieu agit plus profond que ce que moi je vois. Le combat ne se mesure pas avec nos critères humains, il se fait dans la nuit de la foi. Et ça, il faut en être conscient, parce que sinon, on a l'impression que ça ne sert à rien, puis je prie, puis j'ai l'impression que rien ne change. Si, si, il y a des choses qui changent. Toi, tu ne le mesures pas, mais Dieu agit en profondeur. Et puis, dernière leçon de ce texte, c'est faire sonner le cor et les cruches. Et bien, je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est la plus belle leçon de ce texte de Gédéon. Comment est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont proclamé la victoire, avec la corne, ou la trombe, et etc. Alors qu'ils étaient dans la nuit, et que les autres étaient beaucoup plus puissants. Mais ils ont proclamé la victoire. Et cette proclamation de la victoire a mis l'adversaire en fuite. Eh bien, c'est ça le combat spirituel. C'est je proclame la victoire du Christ. Et là, cette fois-ci, c'est une victoire qui est déjà acquise. Et que je proclame ici-bas sur la terre. Comment est-ce que nous proclamons cette victoire? D'abord par notre vie. Une manière de vivre qui proclame que le Christ est vivant et qu'il est sauveur. Deux, par notre prière. Et trois, s'il le faut, par notre parole, comme je le fais en ce moment. Par notre vie, par notre prière, par notre parole. Mais d'abord notre vie. Ta vie peut devenir une proclamation de l'Évangile. Quand tu choisis la charité, la miséricorde, la joie, quand tu choisis le Christ. Comme adorateur, vous proclamez la victoire. Quand vous venez ici, là-haut, pour adorer, comme ceux qui sont maintenant dans la chapelle, venir ici au sanctuaire du Saint-Sacrement, c'est déjà proclamer la victoire. On ne vient pas ici pour pleurer. On ne vient pas ici parce qu'on a tout est à cause d'une défaite. Bien sûr, on vient présenter les douleurs et les graves douleurs de notre monde. Mais au fond, nous venons à cause de la victoire. Nous tous qui sommes présents ici ce soir, nous avons été choisis par le Seigneur pour nous engager dans ce combat, pour proclamer cette victoire. Et retenez bien, ce n'est pas d'abord un combat contre des ennemis. C'est un combat pour le royaume, pour que le royaume puisse se manifester, pour accueillir ici-bas toute la seigneurie du Christ. Et tout cela afin de sauver des âmes. Les âmes les plus en danger, aujourd'hui, il y en a. Il y a des âmes qui, sans se rendre compte, vont droit vers la perdition. Et notre rôle à nous, c'est de prier, prier, prier. Et aussi pour les âmes du purgatoire, que nous ne pouvons pas oublier, parce qu'elles ont besoin de nous. Elles ont besoin de nous. La prière d'adoration, vous allez comprendre ça maintenant, c'est une mission. Quand vous venez ici pour prier, souvenez-vous, vous venez comme des missionnaires dans cette grande mission de l'Église d'aujourd'hui. Parce que nous sommes dans le temps de la mobilisation générale de l'amour miséricordieux. C'est un temps, ce temps nous est confié à nous chrétiens de prendre soin des âmes de notre temps. Un homme ou une femme qui vient donner une heure d'adoration, si son cœur y est, si elle vient pour le monde, pour le royaume, c'est très puissant. Hélène, quand tu viens donner une heure d'adoration et que tu viens pour le monde, pour les autres, pour le royaume, c'est très puissant. Pour chacun de nous, c'est ça. C'est l'enjeu qu'il y a dans la prière. Vous savez, quand, si vraiment je suis là et que je vis profondément cette heure devant Jésus, présent dans l'Eucharistie, présent, buisson ardent, brûlant d'amour, si j'y suis vraiment, eh bien c'est comme si une cellule du corps du Christ se met à brûler, se met à rayonner, à accueillir toute la puissance d'amour du règne de Jésus, puis c'est contagieux. C'est ça que vous vivez quand vous donnez un temps de prière, d'adoration. En adorant Jésus Eucharistie, nous sommes en présence de la manifestation la plus puissante et la plus sublime du royaume. Et vous pensez que ça nous transforme. Et ça fait de nous, vraiment, des hommes et des femmes qui participent à la rédemption. Je vais dire d'une autre manière. Notre présence priante, là-haut, est un acte de justice d'abord. Nous offrons à Jésus l'adoration qu'il mérite. Et ça, c'est juste. Deuxièmement, c'est un acte d'amour. Nous offrons à Jésus, l'Eucharistie, notre temps, notre présence, notre corps, notre cœur, notre amour. C'est un geste d'amour. Troisièmement, notre présence priante est un acte de réparation. Nous réparons toutes les offenses, ou enfin, en tout cas, nous réparons des offenses faites à Jésus, l'Eucharistie, et il y en a de terribles dans notre monde d'aujourd'hui. Ensuite, notre présence priante est un acte d'évangélisation. Nous devenons une contagion du royaume. Nous intercédons pour les âmes d'ici-bas et du purgatoire. À travers tout cela, notre présence priante met en fuite le démon. Nous pouvons aller jusqu'à lui ravir des âmes. Si notre corps et notre âme, purifiés par les épreuves, s'associent à la passion du Christ. Vous vous rendez compte qu'il nous est confié ? Donc le combat spirituel de l'adoration, c'est d'abord cela. C'est cette fécondité de notre prière dans cette lutte pour les âmes, pour le salut. Mais, attention, notre prière ne sera féconde, enfin, sera féconde à la mesure, non pas de notre tranquillité, hein, mais à la mesure de notre amour, de l'amour avec lequel tu viens devant le Saint-Sacrement. Si notre volonté s'y engage pleinement, la clé, c'est notre volonté. Saint Thomas dit bien, l'amour, c'est de l'ordre de la volonté. Est-ce que ma volonté s'engage ou est-ce que je viens simplement me distraire ou me reposer? Et si nous entrons dans cette communion profonde avec Jésus en sa passion, sachez que le Seigneur nous purifiera. Le Père, quand il voit un sarment qui porte du fruit, c'est ça le fruit, c'est le salut du monde. Le Père, quand il voit un sarment qui porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il le taille pour qu'il porte davantage du fruit. Parce que le Père aime ses enfants et qu'il veut qu'aucun ne soit perdu. S'il voit que toi, tu veux bien contribuer au salut du monde, être avec Marie, unie à la rédemption du Christ, eh bien, il va prendre soin de toi pour que tu portes plus de fruits. Vous comprenez maintenant pourquoi le démon s'acharne à nous empêcher d'entrer dans cette fécondité. Et de fait, le démon sème, le verbe s'aimer, semer, il sème le découragement. Il sème le dégoût de la prière. Et comment il s'y prend? Ça, c'est Saint Ignace qu'il faut lire, de ce point de vue-là. Saint Ignace nous enseigne que le démon, il est comme un capitaine qui fait le tour de la place forte pour chercher le point faible pour rentrer avec son armée. Donc, le démon, il fait le tour de ce que je suis, moi, et il cherche mon point faible. Et si dans ce point faible qui est le mien, il n'y a pas l'humilité, eh bien c'est pour lui une porte ouverte. Et il entre. Et on se retrouve à passer une heure d'adoration avec des pensées négatives sur des personnes. On se retrouve à passer une heure d'adoration avec des pensées non chastes, avec l'idée d'aller jouir, de boisson, de je ne sais pas trop quoi, d'aller jouer. Et ça peut être une lutte terrible. Terrible si nous nous battons nous-mêmes avec nos efforts, où je fais tous les efforts que je peux pour moi revenir à des pensées saines et pieuses. Et c'est vrai que je vais terminer par 7 conseils quand la prière devient rude, dans cette lutte amère contre les pensées. Premier conseil, si vous êtes déjà allé au bord de la mer, quand il y a des grandes vagues, qu'est-ce qu'il faut faire? Passer en dessous. Quand il y a des grandes vagues de pensées négatives, passer en dessous. C'est-à-dire, je ne suis pas un fier Goliath qui va lui-même affronter ça. Je ne peux pas. Moi, je suis un petit David avec mes petits calculs. Je choisis la petitesse. Je choisis la pauvreté. Je choisis d'être ce que je suis, un enfant de Dieu qui fait confiance à Dieu. Je passe sous la vague. Premier chemin important. Au moment de ces épreuves, de ces tentations, je choisis l'humilité et la petitesse. Prie comme un enfant, prie comme un pauvre, dit notre livre de vie. Deuxième clé. Je suis à l'adoration, ma tête s'agite. Des pensées. Qu'est-ce que je fais? Je descends l'escalier pour rejoindre mon cœur. Je renonce aux discussions folles avec moi-même où je n'arrête pas de chercher des raisons sur ceci ou sur cela, à préparer des discours, je renonce à la puissance de mes mots et de mes actes. Je descends dans le cœur, comme un homme qui est incapable de se battre, c'est moi, et qui va plonger dans le cœur, parce que je sais que là le Seigneur m'attend. Descendre dans mon cœur, renoncer à argumenter là-haut de la tête. Troisième clé. Une pensée me vient qui me fait vraiment honte. Puis surtout, je suis devant Jésus. Ça me fait vraiment honte. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, cette pensée honteuse, je la présente au Seigneur, telle qu'elle. Je lui montre ma faiblesse. Je lui donne ma honte. Et cette pensée mauvaise, paradoxalement, va devenir un tremplin vers un nouvel acte d'adoration. Je me suis servi de ma pensée mauvaise, en la présentant à Dieu, je reviens vers Dieu. Et dans une attitude d'humilité filiale, d'un homme pauvre de cœur. Quatrième clé. L'idée me vient, puis c'est fort, hein, que j'aurais vraiment mieux à faire que d'être ici. Que je suis en train de perdre mon temps, de toute façon, ma prière est nulle, ça ne sert à rien. Puis je m'endors, puis les autres font du bruit, puis il y a trop de bruit dans la rue, puis il fait trop froid, puis il fait trop chaud, etc. J'offre cet inconfort au Seigneur. Je fais de cet inconfort qui a mille raisons une occasion d'être avec Jésus, en union avec sa passion. Ma prière devient un petit martyr, ok, eh bien, je le vis avec Jésus. Et de nouveau, je suis ramené dans cet acte d'adoration, dans cet acte d'amour où je suis avec Jésus dans sa passion et sa résurrection. Cinquième clé. Toutes ces difficultés, quelque nature qu'elles soient, je les offre au Seigneur pour une intention qui m'est chère. Par exemple, je viens et j'offre ce temps d'adoration avec les souffrances qu'il y aura, les difficultés, en réparation pour les outrages faits à Jésus-Christ, ou bien en intercession pour la paix en ciel, en intercession pour les âmes du purgatoire, en intercession pour les âmes les plus délaissées, etc. Et là, je retrouve une dimension ecclésiale et même cosmique de la prière. Je ne suis pas venu pour être confortable, je suis venu pour aimer, pour glorifier Dieu, et pour sauver des âmes. Est-ce que je vais ressortir de ça épuisé? Non. Au contraire. J'en ressortirai avec une joie profonde et un amour brûlant pour le Seigneur qui me permettra de mettre ce combat, de mener ce combat sereinement dans ma vie quotidienne. Sixième clé. Si nous en avons déjà une certaine expérience et que nous sommes accompagnés, nous pouvons aussi, au nom de Jésus, déloger l'esprit du mal. Au nom de Jésus, je lis, je ligote et j'enchaîne cet esprit de trouble, cet esprit sournois, cet esprit d'impureté, cet esprit d'orgueil. Mais là, il faut avoir une certaine expérience de ça, en parler avec son père spirituel pour ne pas se faire piéger. Jamais n'agissons vis-à-vis des démons en notre nom. Jamais. C'est dangereux. Au nom de Jésus, avec la prière de Marie, avec la prière et le ministère très puissant de l'archange Saint-Michel, qui est tellement, tellement proche de nous et tellement vigilant sur nous pour nous aider dans le combat spirituel. Donc, avoir le courage, quelquefois, de dire au nom de Jésus, je lis, je ligote, j'enchaîne cet esprit mauvais, et je le place au pied de la croix du Christ. Je le mets sous le trône du Père, qu'il en fasse l'escabeau de ses pieds. Au nom de Jésus. Moi tout seul, je ne peux pas faire ça. Je me ferai avoir, je me ferai écraser. Septième clé, le grand cadeau de la confession. Vous n'imaginez pas, ou alors vous imaginez si vous le savez déjà, combien le sacrement du pardon a une puissance incroyable de libération spirituelle. Vous allez vous confesser. Vous allez reconnaître devant Dieu votre misère, votre péché. Et surtout, vous allez proclamer votre foi en la miséricorde de Dieu. Et dans ce sacrement, c'est le ressuscité qui agit. C'est le Christ qui agit. Et il agit sur ton âme en grande profondeur. Je crois profondément que chaque sacrement du pardon vécu sérieusement, quel que soit le prêtre, est comme un exorcisme. C'est-à-dire quelque chose qui va me libérer le profond de l'âme. J'en ai encore fait l'expérience aujourd'hui, moi-même. Je me suis confessé ce matin, et ça m'a aidé aujourd'hui à tenir debout. Et puis l'Eucharistie a été le moment où vraiment le Seigneur m'a libéré pour pouvoir vous parler ce soir. La force du sacrement de pardon est extraordinaire. Huitième clé, j'ajoute un outil extrêmement précieux. Et ça, j'avoue que c'est pour moi merveilleux. Tout ce qui me vient et qui n'est franchement pas beau, donc je peux le présenter au Seigneur, je peux aussi le placer dans le cœur immaculé de Marie. Et vous pouvez faire cette expérience. Vous vient une pensée n'est franchement pas chaste. Pour nous, ce que vous voulez. Cette pensée telle qu'elle est, je la confie au cœur immaculé de Marie. Et vous allez voir que cette pensée qui avait une sorte d'emprise sur vous, vous n'aviez pas à vous en défaire, n'a plus d'emprise pour sur vous. Alors, si vous allez la rechercher, ça c'est votre affaire. Mais Marie l'a pris dans son cœur immaculé. Et là, si vous faites cette expérience, vous comprendrez que le Seigneur a confié à Marie pour notre temps tout pouvoir et toute grâce. Il y a une grâce particulière confiée à Marie pour notre temps. Et la prière du chapelet, ça, c'est l'arme que j'ai dans la poche la plus puissante de toutes les armes. Hein? Dernière clé, je finis par là. Et je finis par là où j'ai commencé. Aujourd'hui, 40e jour, le Seigneur dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous. Eh bien, le grand ami, le grand allié, vous pourrez dire, ton allié, dans le combat spirituel, c'est l'Esprit Saint. Il est l'amour de Dieu répandu en nos cœurs. Il est le royaume qui est déjà présent. Donc si vous invoquez l'Esprit Saint, l'adversaire s'en va. Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. D'ailleurs, ce me sont très précieuses quand on prie pour une libération de quelqu'un. Il faut tout de suite après invoquer l'Esprit Saint pour qu'il prenne la place. Et que vous viviez vraiment de la personne de l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint, c'est quelqu'un qui est en toi, qui vit en toi, qui t'aime et qui n'arrête pas de te conduire au Christ et au Père. Voilà, ça c'est la dernière arme. Et je demande, dernière technique ou dernière arme, je ne sais plus. Et je demande vraiment à l'Esprit Saint de descendre sur nous tous qui en avons besoin pour mener ce combat spirituel.